RCN, écoutez le monde qui bouge.
Chemin de mémoire, une émission de Lamejdam et Yad Vashem, présentée par Michel Merovka, Jacques Lefebvre-Linetsky, Cathy Fiedler et Max Isère.
Chers auditeurs de RCN, bonjour, Max Isère pour le Yad Vashem. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Rachel Amar, que j'avais déjà reçu il y a quelques années, et qui va nous parler de son enfance, une enfance difficile, parce que c'est une enfance d'enfant caché. Et on n'a pas trop souvent l'occasion d'avoir des témoins comme elle, qui va nous raconter son parcours. Donc Rachel, tout d'abord, merci d'être venue. Je sais que tu n'habites pas la porte à côté, c'est pas si évident de venir pour enregistrer cette émission. Donc merci d'être là. Alors, peut-être que je vais te laisser te présenter parce que tu as un peu l'habitude.
Je m'appelle Rachel Amar. J'ai 91 ans. J'ai raconté souvent dans des écoles l'histoire de mon enfance cachée, et notamment à des étudiants de terminale. Et je pense que c'est nécessaire de continuer à propager ces moments durs pour nous, puisqu'on dirait que le monde entier a l'air d'ignorer cette période, puisqu'il y a l'antisémitisme est de plus en plus plus fort. J'ai eu des grands-parents du côté de mon père déportés. Grâce à Dieu, ma famille personnelle, mon père, ma mère et mes frères, nous avons pu nous échapper à ce drame, mais avec des contraintes qui nous ont aidés à pouvoir continuer à vivre, et c'est-à-dire nous cacher. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon enfance d'enfant caché. J'avais 8 ans à l'époque, et mon père était quand même quelqu'un de très connu à Nice, puisqu'il s'est installé en 1930. Maman l'a épousé en 1932. Ils étaient tous les deux déjà à Nice. Je suis née en 1934. Donc, ils étaient connus dans la ville, d'autant plus que, évidemment, comme les Juifs étaient recensés, quand les Allemands sont arrivés, ils savaient, ils connaissaient leur existence.
Oui, puis ton nom de jeune fille, Goldberg, était un peu...
Non, c'est Moscovitch.
Moscovitch, pardon, excuse-moi, je confonds. Moscovitch qui était un nom quand même,
oui,
malheureusement, qui faisait de toi une suspecte rapide. Hein.
Absolument.
Oui, excuse-moi.
D'ailleurs, on a changé de nom pendant la guerre. Nous avons pris le nom de Raymond comme nom de famille. Et pour pas que j'oublie mon nom de famille, on m'a baptisé Raymond. Enfin, quand je dis baptisé, c'est virtuel. Hein. Donc, je m'appelais Raymond. Et donc, ça a commencé en 1942. Les biens de mes parents ont été séquestrés. Il avait une belle entreprise. Et évidemment, on a eu droit à... Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus.
C'était l'arianisation des biens, c'est ça? C'est-à-dire
oui, c'est
que
ça.
c'était
Et
administré par
on a
des,
eu
entre guillemets, rien.
un mec, Monsieur Deverez, je me rappelle toujours de son nom. Pourtant, j'étais petite, hein, j'étais jeune, et un administrateur. Et nous habitions au-dessus du magasin, parce que mon père avait un immeuble qui était très important. Nous habitions au-dessus du magasin. Évidemment, mon père n'avait plus rien, plus de banque, plus de chéquier, rien. C'était un homme qui travaillait beaucoup. Donc, par la fenêtre, il voyait ses employés qui avaient l'air de le narguer, puisque il faut pas avoir d'illusions. Ils étaient à la solde de cet administrateur et il fallait qu'il se tienne tranquille. Donc, il faisait tout ce qu'il voulait. En 1942, ma mère devait accoucher de mon deuxième frère. Et un jour, nous descendions de la maison et cet administrateur se plante devant nous. Ça m'avait affolée et dit à ma mère, qu'est-ce que j'aimerais ouvrir le ventre pour sortir ce petit juif ou cette petite juive que vous avez dans le ventre. Inutile de vous dire, comme j'ai pleuré, nous avons tous su traverser, et ma mère m'a dit, surtout ne dis pas ça à ton père, parce qu'il va faire une bêtise, il va vouloir le tuer.
Bien sûr, bien
Mais
sûr.
Moi, ça m'a marqué, cette chose-là.
Et de quoi?
Parce que, effectivement, si vous voulez, à cet âge-là, on se posait la question, mais pourquoi on nous fait ça? Parce qu'on est juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est une énigme. Et mes parents ne pouvaient pas me donner d'explication, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. C'était quelque chose, on aurait dit que c'était tout à fait normal. Mmh. Et regardez maintenant où on en est, c'est multiplié par 100. Peut-être encore plus que ça. Donc, à ce moment-là, on avait été tranquille quand même tant qu'il y avait les Italiens. Quand les Italiens sont partis, donc, et que les Allemands ont pris la relève, ça a été affreux. Ma mère s'occupait de tout ce qu'il fallait pour essayer de contrer tout ça. C'est elle qui allait voir un mouvement qui s'appelait le réseau Marcel.
Bien sûr, le fameux réseau Marcel.
Le réseau Marcel, qui était aidé par Monseigneur Raymond, l'archevêque de Nice, qui a fait énormément pour les Juifs. Donc, elle a pu avoir des faux papiers, et quand il y a eu cette intercation avec cet administrateur, sans dire à mon père pourquoi, elle a dit, il faut partir, on ne peut plus rester ici. Parce que jusqu'à ce moment-là, avec ce pétain qu'on avait, tout ça, mes parents me l'ont raconté après, parce que évidemment, j'étais une petite fille de 8 ans, je ne m'occupais pas de politique, je ne connaissais rien à tout ça. Mais mes parents m'ont dit, ils étaient au courant de ces histoires de déportation et tout, mais ils pensaient que ça n'arriverait pas aux Français. Bon, alors, mais là, ma mère a commencé à avoir peur et ils ont décidé de partir. On est tous partis dans une banlieue de Nice qui s'appelle Saint-Pancras, chez des agriculteurs qui ont été formidables. Et on a passé du temps là, jusqu'au moment où justement, au réseau Marcel, parce qu'il y avait également un diplomate italien juif, je ne me rappelle pas son nom, qui participait à nous aider. Et comme il était diplomate italien, les Allemands ne lui faisaient rien. Et ma mère l'a rencontré, et il lui a dit, vous savez, maintenant, il faut vous séparer des enfants. Parce qu'une famille avec les parents et trois enfants, c'est trop marquant. Ils vont vous remarquer et vous allez être séparés par eux. Et là, c'est dramatique et peut-être déporté. Donc, mes parents ont fait le nécessaire et ont trouvé à Levens une pension pour nous y placer. Je ne saurais dire si les patrons étaient au courant qu'on était juifs. Je pense que oui, parce que la maison a été louée par une dame, je ne sais pas où elle habitait, qui était juive et qui l'a donnée justement pour nous abriter. Et je pense que les patrons savaient qu'on était juifs et que tous les autres gosses, c'est ça qui était formidable, tous les autres gosses étaient juifs, mais personne ne le disait, on n'en parlait pas, on était muets. Donc, on nous achemine par l'intermédiaire d'amis de mes parents catholiques, on nous achemine à Levens. Déjà, la séparation, pour moi, était terrible. Mon frère, le plus grand, avait 3 ans de moins, et le petit bébé, évidemment, était resté avec mes parents. Et moi, je pleurais tous les soirs parce que je pensais à ce petit bébé. Et j'étais une petite fille, donc c'était mon petit frère et ça m'a rendue très malheureuse. Je crois qu'on a été, on est resté 6 mois à Levens. Il est vrai que certaines dates m'ont échappé parce que d'abord, on ne faisait pas attention à ça. Ma mère venait nous rendre visite 2 dimanches par mois en vélo, avec un vélo d'homme. Elle passait par Aspremont, il faisait froid, il y avait de la neige et tout le long de la route, il y avait des soldats allemands. Avec du recul, je me demande maintenant comment ça se fait qu'elle s'est sortie de là, parce qu'en plus c'était une très belle femme, et forcément, je me disais que les Allemands, peut-être, ils l'auraient attaquée, l'auraient agressée, l'auraient violée, de voir cette femme comme ça en vélo. Et grâce à Dieu, bon, ça ne s'est pas passé comme ça.
Mais quel courage ta maman quand même.
Maman, d'ailleurs, j'ai écrit ma biographie à titre intime, hein, où j'honore ma mère sans arrêt, parce que c'était une femme extraordinaire.
Admirable.
Non seulement elle était très belle, mais elle était humble, elle était aimée de tout le monde, c'était une très bonne épouse, une mère de famille extraordinaire, et un courage à toute épreuve. Franchement, ma mère, elle était une déesse dans son style.
Mais c'est ta maman qui d'ailleurs sûrement est à l'initiative du fait que tu as été sauvée, parce que c'est elle qui a pris finalement toutes les mesures et toutes les dispositions pour que tu sois justement mise à l'abri.
C'est ma mère qui a tout fait, qui s'est occupée des papiers, qui s'est occupée de tout, et qui avait le courage de venir nous voir 2 dimanches par mois. Alors quand il y avait un escalier en bas de la pension. Donc on savait qu'elle venait, mon frère et moi on était là, on l'attendait quand on la voyait au tournant, mais on était fous de joie. On se remettait là quand elle parlait, et là quand elle partait, et là on pleurait parce qu'on se demandait si on allait la revoir. C'était... Je pense que, indirectement, ce que j'ai souffert dans cette période où j'étais séparée de mes parents, de mon petit frère et de cette mère qui était vraiment un génie, elle était géniale cette femme. Je pense que malgré mon âge, j'ai été endurcie et j'ai dû subir un petit peu, indirectement, j'ai dû subir, mais en fait c'est péjoratif parce que j'ai dû être influencée par son courage, parce qu'il me semble que j'en ai eu après, plus tard dans ma vie personnelle. Et elle m'a donné ce cadeau extraordinaire, vraiment, parce qu'on a toujours des problèmes, même quand on est adulte et marié, et des enfants, il y a toujours des moments durs. Eh bien, je pense que je suis arrivée à les surmonter grâce à ce cadeau merveilleux qu'elle m'a fait. Donc, on est resté là-bas. Je suis allée au catéchisme, j'allais au catéchisme. Et d'ailleurs, je recevais tout le temps des images. Les catholiques savent ce que ça veut dire, parce que j'étais première. Comme dans ma tête, moi, quand je faisais quelque chose, je voulais aller jusqu'au bout. Eh ben, je m'en fichais, c'était catholique, mais comme je ne voyais pas la différence en fait entre catholique et juif,
oui, c'est ça.
On était blancs, on était pareils, ça ne me dérangeait pas. Et le dimanche, on allait à la messe et j'étais ravie de me mettre une jolie petite robe, de me faire des boucles. Ça semble idiot, mais
non, pas du tout.
J'ai vraiment joué le jeu. Mais sans jouer, c'était spontané. Bon, au bout d'un moment, maman me dit un jour, tu sais, on va se retrouver parce qu'on va quitter Saint-Pancras. Pourquoi ? Ça, elle ne me disait pas tout, parce qu'on ne peut pas dire à un enfant
de 8 ans, bien sûr, bien sûr.
Il y a, dans le haut réseau Marcel, maman descendait à Nice aussi, pour être au courant de tout ce qui se passait. Et ils lui ont dit, écoutez, il faut que vous partiez maintenant, parce qu'on pense qu'il va y avoir une rafle, parce que votre mari a dû être dénoncé. Donc, c'est là où mon père, par l'intermédiaire de ses amis catholiques, qui étaient formidables, a trouvé un bled qui s'appelle Bouchanière, qui est au-dessus de Guillaume. Guillaume, c'est un peu avant Puget-Aignan. Et qui ont trouvé une maison, qui était en fait une ancienne grange, je pense. Et nous voilà décidés à se retrouver. Parce que ma mère a dit, de toute façon, c'est fini, je ne me sépare plus de mes enfants. Donc, d'un côté, nous partons, nous, en train, c'est-à-dire que ses amis sont venus nous chercher, nous ont amenés, on était en train, et mon père est monté avec le propriétaire de cette maison, en charrette, mais c'est pas une voiture, c'était une camionnette, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et dans le train, donc maman était assise avec le bébé sur ses genoux. Moi, j'étais en face avec mon frère et le train était bondé de soldats allemands. Alors vraiment, on avait peur. Et mon frère, qui était assez coquin, il racontait des blagues, et c'est là, maman lui a dit, tais-toi, parce que tu vas nous faire remarquer. Mais on était... Et tout ça, on était dans la crainte, mais tout ça parce que moi, j'avais dans la tête cette énigme. Pourquoi ? Quelle différence entre être juif et catholique ? Bon, on faisait les grandes fêtes, mais mes parents n'étaient pas religieux. On faisait les fêtes principales, il n'était pas cachère. À l'école, on allait à l'école normale. Donc, d'ailleurs, en passant, quand je suis revenue, quand nous sommes revenus et que je suis entrée au lycée, Madame Simone Veil était dans le même lycée que moi, à Nice.
À Calmette ?
Oui.
Calmette ?
Oui,
lycée Calmette.
Maintenant ça s'appelle Calmette.
Allez, ça s'appelle le lycée de jeunes filles.
Avant, c'était le lycée de jeunes filles. Ouais. Et je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas donné le nom de Simone Veil à ce lycée.
Ça viendra peut-être un jour, parce qu'il y a déjà des établissements Simone Veil, c'est pour ça.
Oui.
Mais effectivement, Simone Veil, tu faisais partie donc, des des gens qui étaient avec Simone Veil, il y avait d'autres illustres...
Voilà, moi j'étais dans les petites classes,
il y avait la...
et elle, évidemment, elle était un peu plus vieille, elle était déjà dans les classes supérieures. Mais à l'époque, on ne savait pas, qui c'était.
Oui, c'est ce que racontent tous les gens qui étaient là-bas.
Pas
oui.
À ça. Oui. Même si c'était après la guerre, on ne s'intéressait pas à ça. Mais voilà. Donc, on arrive à Bouchanière, où mon père nous attendait avec cette fameuse camionnette. On n'avait pas de meubles, on n'avait rien du tout. Et ce Bouchanière, c'est un petit bled où il y a trois hameaux distants chacun de quelques kilomètres. Donc, on arrive là-haut et, surprise, tu parles d'une maison. C'était vraiment comme une ancienne grange. On arrive, il y a une terrasse, deux marches, on rentre dans une cuisine. À gauche, il y a deux chambres, enfin deux pièces. Nous, on a fait ça en chambre. Mes parents ont pris une chambre avec le bébé et l'autre, c'était pour nous. Il n'y avait pas de WC, rien du tout. Il fallait aller faire ses besoins au-dessous de la maison où on élevait des poules. Mon père, d'ailleurs, qui était un homme d'affaires et un entrepreneur, il est devenu un paysan et il est... Ça m'a toujours impressionné. Donc, on était dans cette maison et les gens étaient formidables. C'est ça que je dois dire. C'est pour ça que je voudrais vraiment, au lieu de parler d'antisémitisme, qu'on parle des justes. Parce que je trouve que c'est très important. D'ailleurs, j'en parle dans ma biographie, de voir ces gens... Alors que certainement, ils savaient ce qu'il en était. Ils auraient pu être sollicités ou faire de la délation. Ils ont été formidables. Et on a passé du temps, si vous voulez, pas trop désagréable, je reconnais. Bon, c'est l'instituteur qui faisait l'école. C'était dans la cour de l'église. Et évidemment, c'était l'école primaire. Tous les niveaux étaient rassemblés. Ça, j'avais pas l'habitude. Et bon, on a fait avec. Et les jours de repos, moi, je me suis fait très copine avec les agriculteurs voisins. Et j'allais avec eux dans les prés faire la moisson, la fenaison. Oui, et j'ai appris tout ça, et ça me plaisait beaucoup, comme le catéchisme, parce que j'apprenais des nouvelles choses qui étaient totalement différentes de ma vie, je dirais pas d'enfant gâté, mais d'enfant privilégié avec mes parents, qui m'achetaient toujours des jolies robes, des jolies chaussures. Bon, et j'ai aimé tout ça. Bon, pour se laver, c'était dans la cuisine. On avait acheté, les voisins nous ont acheté une bassine. On se lavait dans l'évier et maman nous mettait dans une bassine avec l'eau chaude pour nous donner le bain. C'était drôle. Mais avec le recul, je me dis, mon Dieu, comment on a pu vivre toute cette vie-là? Et à l'époque, ça nous amusait, on était des gosses, donc on trouvait ça drôle. Bon, donc on a passé un certain temps dans cette maison. Et malheureusement, au bout de, je ne sais plus moi, mais on a dû rester 6 mois au moins, arrive une catastrophe dans le hameau voisin. Deux enfants se sont blessés avec des grenades que le père avait achetées pour faire sauter des rochers. C'était dans sa propriété, enfin dans ses champs. Alors évidemment, ils les ont emmenés tout de suite à l'hôpital. Et là, les voisins nous ont dit, il va falloir que vous partiez ailleurs parce qu'ils vont penser que les Allemands vont penser que c'est des résistants.
Tout à fait, bien sûr. Bien sûr.
Ils vont peut-être pas tout de suite penser aux Juifs, ils vont surtout penser à des résistants
c'est ça,
comme
ouais.
C'était des armes.
Oui.
Oui. Et
donc, vous avez dû partir à nouveau.
On est parti. Alors là, dans un autre bled où on ne pouvait aller qu'à pied ou à dos de mulet, avec un sentier minuscule qui devait faire même pas un mètre. Et moi, j'avais peur. On est allé à Barès, ça s'appelle Barès. Et là-bas, on a été reçu par un monsieur, un vieux monsieur. Je ne me rappelle pas sa tête, je ne me rappelle pas comment il est, je ne me rappelle même pas. On était chez lui, mais alors c'était vraiment une masure. Je ne me rappelle de rien de ce qui s'est passé là-bas. On n'est pas resté longtemps, jusqu'au mois d'août. Et disons que c'était le meilleur endroit parce que les Allemands ne pouvaient pas venir. Ils ne pouvaient pas accéder. Bon. Et on apprend, on voyait les avions américains passer et tout, donc on savait quand même par ceux de Bouchanière qui nous tenaient au courant que ça allait se terminer. Donc on continue comme ça, on n'est pas resté longtemps. Et on apprend la libération de Nice le 28 août. J'avais mes grands-parents maternels qui étaient à Nice. Eux, ils venaient de Metz. Et là-bas, comme c'était voisin de l'Allemagne, ils ne pouvaient pas rester. Ils étaient venus, mais ils étaient logés dans un petit appartement, mais personne ne les connaissait. Donc, ils n'ont pas été ennuyés. En plus, ils avaient un nom qui pouvait être allemand, Boschmann, il s'appelait. Donc, ma mère était contente de savoir qu'ils étaient vivants. Par contre, un de ses frères a été tué lors d'un bombardement de la gare de Riquet à Nice. Et bon, donc, ils apprennent que Nice est libérée. Donc, mon père a contact, toujours par l'intermédiaire du réseau Marcel, contacte quelqu'un qu'il a pris et qu'il a fait redescendre sur Nice. Il a été chez nous. Il a cassé la porte parce qu'il n'y avait plus de clé, plus rien. Il a embrassé par terre, tout ça, il me l'a raconté. Il pleurait et tout. Bon, déjà, et il savait que ses parents avaient été déportés. Et bon, et nous, il est revenu nous chercher toujours avec cette camionnette en question et nous sommes redescendus sur Nice. Je ne vous dis pas l'atmosphère, c'est extraordinaire. Mais cette vie d'enfant caché, je comprends que tous les autres enfants cachés, il y a du ressentiment, et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle avec cet antisémitisme...
C'est ce que je vais te demander, oui.
On ne comprend pas.
Bien sûr.
On ne comprend pas. Est-ce qu'ils ont été à Gaza, ces gens? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire d'Israël?
Je crois que la réponse est dans la question, bien sûr que non. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler à un enfant caché, il y a toujours cette espèce de force extraordinaire que vous en avez tirée de cette expérience pourtant terrible que tu racontes si bien. Et c'est vrai que moi, je pense que j'aurai l'occasion dans les semaines qui suivent de recevoir d'autres enfants cachés parce qu'il faut absolument que vous témoigniez comme tu l'as fait, Rachel, et je te remercie infiniment. Tu as eu une belle vie de famille après. Tu as notamment... ton fils, qui est Philippe Amar, qui est un écrivain connu, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Les trois vies de Susanna Baker », qui ne parle pas directement des enfants cachés, même pas du tout, mais qui évoque cette époque-là sous forme presque d'un thriller. Et c'est donc, ça s'appelle « Les trois vies de Susanna Baker », c'est écrit par Philippe Amar, aux éditions Mazarine. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le conseille.
Mazarine Fayard,
qui vraiment doit être lu. Je vais prendre les quelques secondes qui nous restent pour rendre hommage au rabbin Marciano, dont nous avons appris le décès. Le rabbin Marciano, c'était la voix qui nous accompagnait pendant nos cérémonies mémorielles. Nous n'oublierons jamais sa voix, l'émotion qu'elle suscitait en nous. Et je voulais lui rendre hommage. Et puis je voulais aussi rendre hommage à ma mère, parce qu'elle a eu un parcours extrêmement similaire au tien, avec tout ce que vous en avez tiré. Voilà, il me reste à remercier Yossi pour son assistance toujours bienveillante. Et vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de Pessah, en espérant le retour des otages et des bonnes nouvelles. Voilà, Rachel, merci beaucoup d'être venue ce matin. Merci de ton récit, merci de ta vivacité pour nous raconter tout ça. Et
je vous remercie de pouvoir justement le raconter.
Témoigner. Merci encore, Rachel. Et donc, à très bientôt sur les antennes de RCN. La fois prochaine, ce sera Jacques Lefebvre et Cathy Fiedler qui seront aux manettes. Mais je reviendrai avec d'autres enfants cachés. Merci encore et merci aussi.
Chemin de mémoire, une émission de Lamejdam et Yad Vashem, présentée par Michel Merovka, Jacques Lefebvre-Linetsky, Cathy Fiedler et Max Izer. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.